À bout de souffle. Tout me penche, en avant, où nulle ombre ne porte le poids de ce que je suis. Écrit Emmanuel Logier. Aujourd'hui, en compagnie du poète, sur le lieu de veiller par le geste, Emmanuel Logier se commit devant un public tourangeau. Avec la complicité de Marc Blanchet, lequel l'a entretenu sur ses méfaits littéraires, ses cochonneries, comme dirait Artaud. Emmanuel Logier est un poète. Il a déjà publié L'œil bande chez Desrois l'éditeur et Je suis dehors déjà, je suis dans l'air aux éditions 1. Son corps flottant chez Didier de Villers, Vertébral chez Didier de Villers, Portrait de tête aux éditions Prétexte, Suivante chez Didier de Villers et Mémoire du Mast chez Virgile. Fait partie du comité de rédaction de la revue L'Animal, pour laquelle il a dirigé un cahier sur Jean-Luc Nancy, sur Jean-Christophe Bailly et sur Philippe Lacoulabarthe.
Emmanuel Logier.
Les extraits que je vais lire font partie d'un livre qui s'appelle Fort, F-O-R. Ce petit mot latin, étymologiquement, fait référence au fameux foris latin qui signifie le dehors, l'extériorité, et construit également ce fameux fort intérieur que l'on connaît. Le mot étant presque concentration ou condensation de ce qui se passe entre dehors et dedans, depuis la simple nuit que nous passons à dormir pour le matin se réveiller à nouveau et recommencer quelque chose qui est une autre nuit, tout cela constituant peut-être une sorte de millefeuille ou de strate psychique qui petit à petit nous construit depuis les mémoires les plus immédiates, qui sont ce que l'on voit dans la rue en traversant un carrefour, jusqu'aux mémoires anciennes qui sont celles de l'enfance et que l'on ignore même avant même de peut-être les écrire, et jusqu'aux mêmes mémoires antédiluviennes qui sont celles que l'on ignore vraiment et qui sont celles qui nous constituent même avant notre naissance. Voilà, donc les extraits de ce livre tournent autour de ça, le livre étant presque une sorte d'obsession de ces nuits ajoutées à des jours qui forment d'autres nuits. Ensommeillé, tu penses au coude jaune moutarde de la route qui tourne, mais tu ne la vois pas, tu es trop petit derrière pour voir la route devant continuer demain. L'enfractuosité dehors recommence. Sûr qu'elle viendra à tes yeux par la vitre où tu te penches un jour, le vert massif des champs se détache des tricots vifs sur le stade, mais ces nuits pleines, noires, sans lampadaires en station, dans le noir, d'autres masses, elles aussi, noires plus encore que denses, comme ça, dans le contraste, tu es bercé, et tu regardes en fumée de noir tendre le cadran illuminé de la voiture. c'est la nuit de l'enfance. Parce que dormir ne rêve pas la veille, de ce qui rêve reste ce petit bout de temps disjoint à part où retenir mémoire du jour a passé telle main dans la tienne, mais est écartée et mise en somme, cela veille sans toi et presque s'espace un peu de nuit dans la nuit, parce que jour du jour sera plus tard vraiment danse des papillons blancs entre les doigts. Parce que dormir accompagne et pas, il faut ce net partage de temps entre ce qui vient noir emporter le rêve et ce qui, blanc, insomniaque, te met sur la touche, car attendre insiste, car il y a la veille, le tracé qu'aujourd'hui a fait en toi, en nul autre ou presque, cette place dont tu te souviens avoir traversé le cercle, l'enfer de la place où tournent les poignets, la folie du jour du même. C'est une opération, chimie simple, fait d'un rapport de combustion lente et d'air. Cela tourne en fumée, du noir en fumage léger, infiltrant des passages, des replis, laisse dans la tête un long linéament torsadé sombre, violet presque, où personne pour le voir en vrai. Mais après bien du plus que parfait conjugué, sûr que très visible à l'intérieur du crâne. Très visible, oui. Pendant le temps, non. Il n'y a personne pour confirmer, savoir si ça passe, a dû passer, a fait le trajet embué, tel endroit et sans grand mouvement, même savoir quelle teinte aquarellée fait trace, bois dans le tissu, si s'élargit un prisme, ne se peut savoir. Et même si tu ne sais pas, au certain répondre, toujours le prisme s'ouvre. Par exemple, aurait dû faire le lendemain le goût de la cerise, dans les bras pendus aux branches une autre douceur, dans le poids du corps un petit pli d'éveil, quelque chose comme ça. Mais ce n'est toujours pas le cas, venant et venant, jusqu'à l'affaiblissement de la lumière. Par exemple, au fond de la voiture, je vois sur le pare-brise tourner des ombres parce qu'éclairage régulier ici balise encore un peu. Sur le verre mat, il y a une giration lente, très lente de l'esprit des choses, et emportée glissade soudaine d'un calque. Le double même pas vérifiable de cela même que demain peut-être oui, réveilles-tu. S'y reprendre peu, et refaire le tracé, léger bouger à fleurs au fond du crâne, selon les linéaments enfumés de la tête, si c'est reporter sur sa main le début et la fin de la balade, alors oui, près de l'Oued, aux orangers, on dirait otage. Ainsi est la petite fumée qui a franchi le cap. Dans le champ au loin, dit-on qu'elle couve au creux du crâne ce que tu ne sais pas de la combustion des choses, dit-on cela qu'elle répond, et répondant à ce rien lui donne la main, fait quelque chose comme ça, là où plus de mots pour ni moins l'odeur des oranges. Main de nuit dans l'angle, de jour qui ne veille pas mais conduit un serpent de route, le sillon étroit à suivre ferait presque crâne possible la mobilité de ses graphes, l'encre perdue dans le ravin de tête, toute une casse. Main de jour, coin de table de nuit, sous la lampe qui éclaire tard, le cercle devient, ne s'arrête pas de tourner, le fil au ras de l'eau, par exemple, un bassin d'arrosage où la main tire un fil, est une bobine longue qui traîne. Au fond, Elle ne voit pas plus que toi avec ta main qui enroule la bobine dans le noir tombé mat. À peine le dos rouge moucheté d'un poisson cherche une graphologie. Et ne sait rien. Ce qu'elle touche est même chose, vue de nuit sans yeux, pour voir la chose et détachée dans la nuit, s'éloigne ainsi. Ce n'est pas la chose que tu vois, courir sur les bas-côtés, disparaître, ce n'est pas elle, puisque toi aussi tu es éloigné, tu es enfoui dans le coffre, presque tu n'as plus l'embarras d'avoir affaire avec elle, un nœud, un rapport. Tu n'as plus qu'un sommeil épais pour toi sans chose. Le somme du poisson immobile au fond est le même pour toi. Il faudrait deux branchies, juste là pour continuer même le poème. Ne sait rien et sait quelque chose. La main, quand elle dort à côté du corps, s'engourdit, fait navette de milliers de fourmillements. Ainsi de nuit, elle ne voit pas. Ces noirs épais en masse, énervantes, cela traîne dans la tête au réveil un ralenti. Une première partie, puis une autre, seconde partie du jour, du clair, quand la nuit a plié, le jour redémarre. La main aussi, mais ne veille pas pour autant sur la nuit du jour, non. Elle semble ne pas voir plus loin. Ni ne va chercher ce qu'elle ne voit pas, ne se voit pas. Ce qu'elle ne dort pas, sommeille. Ce qu'elle somme, éveille. De jour, la nuit du jour, ainsi contradictoire. Expliquer. Comment, à partir de quelle partie, de quelle tranche de la tête vient le fil, le courant que la main il maintenant fait, qu'elle ne dort pas jamais, comment il fait passage dans le poème s'il n'y a pas ici un renard à longue queue sacrée dans la main. Et plus tard ne plus s'expliquer. Je vois de fines mains douces et le slip imaginé tourne entre les ciseaux des jambes. Je voudrais dormir derrière, ne vois rien. Dans la voiture qui avance tard, plus d'éclairage, ici des taches égarées, claires s'avancent, parfois sans qu'on puisse les attendre, j'attends le sommeil. Ce que je ne dors pas est la ligne tirée, ouverte, de sa cheville à la hanche, corne, oubliant la bande, le segment de route défoncé me remue. Et quand je dors, le poème est slippé, juste là, tempo, avec ou sans soi, pareil. Parce que nuit chaude, figuier, sous les branches fraîches, me revient le jour, dans l'aujourd'hui même, le pan lointain de la tête, de la balade où j'ai traîné, j'ai enfanté, où j'ai tombé, bol dans les mains cassées, c'est une pieuvre dans la tête, précipitée, qui se répand multiple, mais la main n'en sait pas plus. Ici, le revenir infiltre le présent. Dans le sommeil de nuit, le paquet travaille, prépare des rapports, conductibles, des sortes de flaques d'encre, rapides, sans buvard. Des sortes de flaques d'encre. Ce qu'elles sont existe et n'existe pas. Dans l'entre-deux du jour et de la nuit, voir le déversé d'une encre en rêve, rapide, le précipité noir tendre dans l'eau, ne pas voir, et même ordre réversible. Plus tard ou bien avant, on ne sait pas, ce sont des parties lunées, avec ascendant de nuit, des jours entiers selon la place et la giration. La voiture avance et toi, avec, tu lunes, tu tournes à la même vitesse, tu dors tous les morts, le vieux notaire du Rhône est sous la treille. Le boxeur de Cuneo tatoué, tous reviennent, ils parlent à voix basse, tu sais cela, dans le coffre derrière, mais ne dis rien, non. Tu souris ailleurs, tu vois un rire de fille passer dans la balançoire. Ainsi tu passes le sommeil, et le rêve oublié est oublié. Il y a dehors des champs encore possibles que tu traverses. Tu voudrais pourtant tomber dans le demi-sommeil pour voir en entier comment les traces se marquent de leur ténuité et fondent, et font ces sortes de petits dessins tremblants à fleurs du crâne quand le soleil monte, s'il y a correspondance entre chaque enjambement. C'est une tension, en somme, recherchée dans l'ordinaire d'une route. Il y a une autre route, le même tracé, la même presque continuité. À travers la vitre, le noir du paysage monte. Puis il y a encore du noir épais dans du noir flotté, de légers contrastes pour distinguer entre les masses et les surfaces, ou bien des surfaces creusées de simples blocs, denses. Les yeux cherchent et clignent un peu du sommeil, va venir, vient, recommence le cycle, le collier. Des arbres bercent demain, ailleurs, ce qui restera, ne restera pas. Dans le coffre de la voiture, il n'y a rien. Penché dessus, à l'instant, il est carré noir sur fond noir. Ta main s'y perd et s'en trouble, remonte à de la peur. Sûr que la nuit après rappelle le coffre, mais ce serait plutôt coffre dans le coffre, avec effet rassurant, pacification interne, calme fin. Toute voix confondue avec toi depuis le coffre, avec lui, la légèreté du quelconque, avec elle, avec toi, l'extra légèreté de la seconde qui envahit le trouble même des voix venues, là, au fond, sur fond de boîte noire.
Emmanuel Laugier, évidemment, c'est pas facile de comme ça de réagir à brûle-pourpoint, et c'est vrai que je le fais un peu aussi à la lumière des livres que vous avez déjà publiés auparavant. Mais à la limite, il y a des choses, des éléments qui me guident déjà en dehors de la poésie, c'est de la manière même, puisque ici on ne parle pas seulement de danse, mais on en fait, et on en vit, et on a envie de vivre. Et il y a une manière de tempo qui est extrêmement présente, avec une main extrêmement caressante, qui elle-même, dans sa répétition, sa lenteur et son attention, semble d'une certaine manière donner un espace beaucoup plus calme, rassurant, à ce qui est à l'intérieur de ce que vous lisez, qui est beaucoup plus déstructuré, beaucoup plus violent. Mais en même temps, on sent très bien que dans cette forme de narration, il y a quelque chose qui se tient en permanence, qui se raconte. Et il est difficile de ne pas imaginer de poésie, en effet, sans histoire, sans narration. Et là, il y aurait une sorte de manière de traverser du jour et des éléments qui me paraît assez présente dans ces poèmes. Alors, avec l'impression, peut-être pour première un peu éclairage, ce terme que vous utilisez, parce qu'évidemment, c'est difficile de tout se remémorer, à un moment, il y a quelque chose qui passe et il y a du passé. C'est-à-dire, il y a les choses qu'on observe et les choses qui, étant observées, sont remémorées. Et j'ai l'impression que votre travail poétique... on parlera éventuellement après de cassure ou de ce terme un peu laid, je dirais, de déstructuration, parce qu'il me semble évidemment excessif, mais une manière comme ça d'être dans la traversée du jour, et vous parliez des nuits, mais bon, c'en est la même traversée du jour et de l'espace, dans lequel il y a une impression de passage, mais une impression aussi que tout passage implique une remémoration à un passé. Est-ce que c'est déjà cette approche-là, cette première approche, quelque chose auquel vous êtes sensible dans votre propre écriture, que quand vous écrivez, vous racontez quelque chose de l'ordre d'un défilé du jour, mais dans lequel, évidemment, des éléments de remémoration se mettent en place au rythme de ce qui est observé. Mmh.
Je me suis aperçu que... Comment dire ? Je vais partir d'un exemple qui concerne le premier livre que j'ai écrit, qui s'appelait « L'œil bande », et qui a été écrit alors que je m'installais à l'époque à Paris. Je venais du sud de la France, j'écrivais depuis assez longtemps, et arrivant à Paris, comment dire, le rythme de ce que je voyais dehors, de ce que je voyais de la ville, dans le quartier où j'habitais, qui était Strasbourg-Saint-Denis à l'époque, dans les années 90, est venu faire une pression telle sur finalement ce que je ressentais, tout simplement, que le langage s'en est modifié et m'a conduit à écrire ce livre. C'est-à-dire que tout ce que j'avais écrit avant, quand bien même il y avait des choses qui peut-être sont restées, s'est retrouvé bouleversé par quelque chose qui, à un moment donné, faisait pression sur moi, par sa force, sa puissance, sa densité. Peut-être à ce moment-là, je n'échappais plus à ce qui était dehors, là où je pensais avant même déjà en parler. C'est-à-dire que là, j'étais confronté à quelque chose qui était de l'ordre de l'ignorance et de l'insu. Et le langage s'en est modifié, c'est-à-dire qu'il est devenu bégayant. Je me suis retrouvé face à des choses où je perdais le langage. Hein ? Que ce soit le bruit d'un rideau métallique, d'un commerçant qui ferme sa boucherie le soir dans un kurde, par exemple, le bruit du métal de la tôle qui tombe et qui venait couper comme ma propre langue, et il fallait que je dise ça, ou que ce soit quelqu'un qui, on ne savait pas s'il était vivant, mais qui était dans un sac par terre, bleu, un sac de couchage, et qui dormait dans la rue. Et ça m'a coupé la langue. Et si je cite cet exemple, c'est que ce livre-là, je l'ai écrit presque dans une sorte de présent immédiat de ce que je vivais, avec une mémoire extrêmement proche de ce que je vivais. C'était une mémoire qui avait que quelques mois, en quelque sorte, et qui s'est travaillée dans les années où j'ai vécu à Paris, bien que ce livre ait été écrit assez vite, pendant une année. Donc la mémoire qui a constitué ce livre, c'était une mémoire du présent tel que je l'avais à la figure jetée. J'ai écrit ce livre comme ça. Et petit à petit, après ce livre-là, ne sachant plus qu'est-ce qu'il fallait que je dise et qu'est-ce qu'il fallait que j'écrive, puisque cette expérience-là m'avait fait prendre conscience d'une chose, c'est que écrire, c'est se confronter à ce que l'on ne sait pas, ou face à ce qui, à un moment donné, nous fait perdre le langage, nous fait perdre ce qui nous permet de dire à l'autre quelque chose à un moment donné dans un rapport social commun, général, de communication. Et s'il fallait que je perde à nouveau le langage pour écrire, il fallait que je me confronte à nouveau à quelque chose d'autre. Je ne pouvais absolument pas refaire le même livre que j'avais fait, puisque je l'avais déjà fait. Je ne pouvais pas reparler des mêmes choses, puisque je les avais déjà dites, et que les redire m'aurait conduit à utiliser un langage que déjà j'avais écrit, donc un langage avec lequel j'avais un rapport de connaissance. Et donc à ce moment-là, j'ai été confronté à quelque chose qui a été mon problème, évidemment, mais qui m'a conduit peut-être à faire face à une sorte de mémoire, à une mémoire ancienne, que j'avais le désir toujours d'inscrire dans le présent, c'est-à-dire que ce dont je dois parler, ou ce qui me fait écrire, c'est simplement quelle est l'époque où je suis et comment cette époque se marque en moi et comment je peux la dire. En même temps, quand on travaille face à cette question-là, on est toujours face aussi à sa propre histoire, donc à ses propres mémoires, qui ne sont pas de simples souvenirs. Le souvenir construisant ou constituant malgré tout aussi ce qui fait la mémoire. Donc comment parler de quelque chose qui est de la mémoire, qui est en même temps du souvenir, sans en faire quelque chose qui en sera réduit à du simple souvenir, c'est-à-dire à une sorte de carte postale de voyage telle qu'on peut tous les faire quand on se promène. C'est comme ça que la mémoire s'est presque réinscrite comme quelque chose finalement qui était fondamental dans l'écriture. Ça a été d'abord tout simplement par... En sachant que si je voulais continuer à écrire, il fallait que je fasse face à quelque chose d'autre. Et c'est comme ça que la mémoire s'est réinscrite dans mon écriture. Elle est partie, donc, elle n'existait pas au début, elle n'était qu'une mémoire de très immédiate, liée à Paris, liée à mon installation à Paris, à tout ce que je voyais, à ce dont témoigne l'œil bande. Et ensuite, il a fallu que je me dise, mais il y a aussi d'autres mémoires qui se nourrissent évidemment du présent. Mais ces mémoires-là, quelles sont-elles? Comment peuvent-elles habiter le poème? Qu'est-ce qu'elles ont à dire? Qu'est-ce que je sais suffisamment peu d'elles pour que j'ai quelque chose à faire remonter d'elles dans le poème qui soit, à un moment donné, moteur aussi de ce qui allait s'écrire? À partir de là, c'est vrai que dans ce poème-là, ça convoque plein de choses. Vous avez entendu la voiture, les cadrans lumineux de la voiture quand on est derrière une voiture conduite dans l'enfance ou même après, sur des routes qui ne sont pas éclairées le soir, où on voit des masses d'arbres se détourer dans la nuit qui n'est pas tout à fait noire, etc. Tout ça rappelant presque des mémoires aussi d'enfance marocaine, puisque j'ai vécu 10 ans de ma vie au Maroc et où je suis né. Mais en même temps, l'important, ce n'était pas de rappeler cette enfance pour rappeler le Maroc tel que j'avais pu le rappeler. C'était peut-être toucher une zone comme ça de la mémoire qui est liée à l'enfance et qui est, qui peut être liée à l'enfance dans tous les cas, et qui est liée à cette enfance pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Et comment cette mémoire s'articule à un présent que nous vivons, qui vient nous écraser en quelque sorte, nous priver parfois d'une liberté qu'on aimerait avoir, et comment cette mémoire de l'enfance rappelle la liberté urgente qu'on a à inscrire dans le poème, à partir de cette propre expérience. Je sais pas si je continue.
Mais alors, en fait, l'impression que j'ai en vous écoutant, c'est que je vois d'une certaine manière quelque chose qui est à la naissance d'une poésie, ou peut-être même d'une poétique, et qu'en fait, vous n'avez pas voulu être dans la répétition, et que s'il y avait eu ce phénomène de découverte, un peu d'immédiateté, et de la découverte et du langage, pour découvrir finalement votre propre langage poétique, vous ne vouliez pas vous inscrire dans une forme donc de répétition ou d'exploitation, ou même ce qu'on pourrait dire de manière plus simple, de petite musique qui ferait qu'il y aurait une sorte de style à creuser davantage avec ce type d'obsession. Donc les obsessions, ou alors celles sont devenues nouvelles, c'est qu'elles ont en effet su imposer et autant rappeler à elles-mêmes cette mémoire de l'enfance, cette urgence qui doit s'inscrire dans le poème, qu'on retrouve dans la manière dont vous lisez, dans le même dont on peut le lire à travers le rythme, mais il en ressort aussi quelque chose de bouleversé qui fait que cette matière nouvelle que vous tout de même, on se doit d'apprivoiser, si on écrit avec la rigueur que ça suppose, vous n'avez pas voulu l'inscrire dans une affirmation d'énonciation qui fait que dans votre écriture poétique, en permanence, il y a une manière de couper, de casser, qui semble garder une sensation, une perception, mais qui ne veut pas, d'une certaine manière, l'expliciter ou la faire couler d'une sorte de flux narratif, qu'on pourrait dire de manière un peu caricaturale, fluide, lisible, quelque chose de totalement heurté en permanence, comme si finalement votre vigilance, votre présence au monde nécessitait ces heures continues. Est-ce que c'est une impression que vous avez maintenant quand vous écrivez de la poésie?
Enfin, l'impression, à la rigueur, c'est pas moi qui devrais la dire. Hein, l'impression de coupe, de syncope, de respiration suspendue, de mouvement du corps, de la voix à l'intérieur du corps du poème, écrit sur le papier, etc. Cette impression-là, bon, j'en ai évidemment conscience, mais c'est plutôt à l'écoute. Lorsque je la lis, qu'on peut me la témoigner. J'en ai conscience malgré tout, dans le sens où pour moi, l'important, c'est de respecter la logique de la perception telle que on la vit. Y a un exemple fameux qui sert à beaucoup de choses, mais je le sortirai de son contexte. Enfin, en contexte poétique, entre guillemets, qui touche à ce qu'on appelle la littéralité. Il y a un poète un jour qui a dit, voilà, je suis rentré dans une cour. Alors, je le dis comme je l'expliquerai. Je rentre dans une cour, je vois des arbres, il y en a 3. Voilà, Alors ça, c'est si on te dit, tiens Emmanuel, tu es rentré dans cette cour, qu'est-ce que tu as vu ? Je suis rentré dans la cour, elle était blanche, il y avait trois arbres. Donc je construis ma phrase, je dis ce qu'il en est, pour qu'elle soit communicable, compréhensible de tous. Mais en même temps, si j'avais dû respecter véritablement ma perception, j'aurais dit cour, blanc, arbre, trois. Voilà comment j'aurais dû construire ma phrase, en quelque sorte, pour que soit respecté ce que je vois. Bon, c'est un exemple un peu extrême ou caricatural. Enfin, peut-être pas caricatural, mais un peu poussé à bout. Finalement, le travail poétique ou le travail d'écriture, c'est ce respect-là. C'est ce respect-là à l'intérieur de ce qui vient enlever le langage. Ça, j'y insiste un peu. Mais je crois qu'il n'y a d'écriture, comme il n'y aurait de danse, qu'à partir du moment où dans la langue, on est coupé de la langue, ou il n'y aurait de danse qu'à partir du moment où on est coupé du corps quelque part. À nous, après, de retrouver le rapport à la langue et de retrouver le rapport au corps dans le respect de ce qui nous en a coupé, de ce qui nous en a séparé à un moment donné. Parce que sinon, on fait une phrase conventionnelle, une phrase qui se répète, une phrase qui est la même. On va répéter le sentiment de la ville tel que Baudelaire avait pu en parler au XIXe siècle, dans un langage qui n'est plus le nôtre, dans une ville qui n'est plus celle de Baudelaire, etc. Donc, à un moment donné, si on est face à quelque chose qui vient nous heurter et nous faire prendre conscience de façon très intuitive, en fait, que là, on est effaré, là, on est époustouflé, là, on est bras ballants, là, on est sans rien à dire, on est comme ça. Bon, on n'est pas forcément comme ça à chaque fois que ça se passe, mais intérieurement, on l'est. Là, il faut respecter ce que l'on a vu, ce que l'on a senti. Et là, ça fait que quelque chose dans la langue se modifie parce que l'extériorité, le dehors, ce qui est non dirigeable, ce qui est non dirigé, ce que nous ne maîtrisons pas, ce qui est sans langage, ce qui est silencieux, ce qui existe sans nous, une pierre, une chaise, n'importe quoi, vient à un moment donné faire pression sur nous qui avons le langage, mais vient faire pression en nous disant presque que la pierre que tu vois, elle te tape sur la tête et tu perds le langage. Alors si la pierre te tape sur la tête et que tu perds le langage, il faut que tu le perdes pour pouvoir parler la pierre, en quelque sorte. Moi, je me suis toujours dit que écrire devait respecter au minimum et jusqu'au bout cette chose-là. Depuis ceux qui n'avaient plus... Et c'est pour ça que l'œil bande a été fondateur pour moi, parce que je me suis... Un jour, j'étais le soir, tard, je ne sais plus, je regardais une émission à la télévision, c'était sur Arte ou je ne sais pas quoi, et il y avait une émission sur les SDF, et puis on voyait, le type avait filmé ça de façon très pudique et très forte, et il filmait un gars de loin, c'était dans un hospice de jour où il pouvait se laver, se retrouver, enfin, etc. Et on voyait filmer de loin ce type qui avançait vers la caméra, et la seule chose qu'on voyait à un moment donné, c'est qu'il lui manquait une dent au milieu, et que ce type ouvrait la bouche et qu'on lui demandait de témoigner, et qu'il savait, il était au bord du langage, mais il savait pas quoi dire, quoi. Et je me suis dit que si le dehors et tout ce qu'on voyait dehors était sans langage et venait nous écraser, même ceux qui avaient le langage pouvaient ne plus l'avoir et venir aussi nous écraser, et davantage encore. C'est-à-dire, venez nous dire, en quelque sorte, que si toi tu parles à ma place, parle déjà en ayant su ce que c'est que perdre le langage. Alors bon, c'est une expérience, évidemment, quand je l'exprime comme ça, elle est un peu dramatisée, mais en même temps, je crois que c'est ce qu'on doit respecter à la base. Après, il y a de grands exemples, des poètes qui ont donné ça aussi, qui nous montrent quand on les lit qu'ils ont été traversés par cette chose-là, et on se dit qu'on ne se trompe pas à la suivre, sauf qu'il faut la réactualiser dans le présent aujourd'hui que l'on traverse, quoi. Un poète comme Hopkins au 19e, chrétien, se retrouve à un moment donné dans les banlieues de Belfast, pourries, où le sous-prolétariat prolifère, avec des émigrés irlandais qui arrivent, qui n'ont rien à bouffer, etc. Lui, il est dans son trip on va dire, croyant, il est là. Il a écrit des poèmes sur Marie, des poèmes sur la beauté des corps, sur la beauté que Dieu disperse sur terre, etc. Et puis d'un seul coup, il se retrouve à donner à manger à des gens qui crèvent la dalle dans le Londres de la fin du 19e, qu'on n'imagine pas, bon, mais on peut imaginer ce que c'est. Et cette réalité vient complètement écraser son propre langage et le renverser complètement. Et il écrit des poèmes presque que tout chrétien pourrait dire odieux, puisque d'un seul coup, il se met à invectiver Dieu en lui disant « Mais regarde ce que tu fais, quoi !» Et son langage s'en transforme, le rythme de ses vers change, et il écrit une poésie qui va exploser et être un des phares, bon, de la modernité ensuite, mais parce qu'il fait rentrer le réel dans ce qu'il a de plus innommable à l'intérieur de son vers, et en crée une rythmique nouvelle, hein, qui va appeler le « spring rhythm », Le rythme bondissant, donc quelque chose qui joue sur les toniques, etc., mais qui va être extrêmement saccadé, insupportable évidemment pour la poésie traditionnelle et académique de l'époque à Londres, quoi. Enfin en Angleterre.
Souvent on dit d'un poète, oui, c'est un travail sur le langage, mais à vous entendre, on pourrait avoir l'impression que c'est un travail au bord du langage, et que ce qui est écrit et tout ce qui pourrait nous montrer qu'à un moment donné, on peut déchoir du langage. Est-ce que vous avez l'impression d'être finalement dans cette sorte de tension, c'est-à-dire d'avoir pu, d'une certaine manière, recueillir quelques fragments, quelques membres, mais que ce recueil de fragments, c'est aussi ce qui vous fait tomber en dehors de ce que vous avez recueilli?
Le problème du langage, c'est que même quand on pense qu'on écrit dans la logique que j'ai dite, on est toujours dans le langage quelque part à un moment donné, on remonte par le langage, donc on n'est jamais sûr de ce qui reste à l'intérieur du langage et qu'on a pu voir.
Vous parlez à un moment donné de ce lien, en fait, comme ça, avec ce langage hautement maîtrisé dont Hopkins faisait part à travers une sorte de langage presque liturgique qui faisait écho à toute cette maîtrise du vers qu'il avait, cette confrontation à un réel qui le submerge mais dont il doit porter témoignage et donc qui va entrer dans son écriture. Et pour parler à un moment donné de ce que vous faites, comme dans ce que vous écrivez, il y a parfois l'expression « par exemple », comme si l'exemple articulait aussi quelque chose qui n'est pas seulement évidemment une recherche de langage d'écriture poétique, mais bien une forme de raisonnement qui a besoin de s'étayer sur un exemple. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, il y aurait une crainte de sombrer dans une certaine forme d'abstraction s'il n'y avait pas ce rappel de la réalité que, d'une certaine manière, vous imposez à vous-même, que la réalité vous impose, mais que vous imposez aussi à vous-même?
C'est d'autant plus vrai pour ce livre-là, parce que le livre précédent, qui est celui-là, que Mémoire du Math, qui est un livre que je trouve, après l'avoir écrit pourtant et publié, peut-être trop complexe, trop compliqué, trop abstrait. Enfin bref, quelque chose qui ne va pas dans ce livre, enfin pour moi dans tous les cas, même si j'ai eu des retours de lecteurs qui m'ont rassuré. Mais bon, pour moi, c'est un livre emblématique de ce que je ne veux absolument plus faire. Mais ce dont parlait Marc là, c'est vrai que ça s'est plutôt marqué dans ce que je vous ai lu. Peut-être parce que dans les livres avant, il y avait les poèmes étaient aussi construits différemment. C'était souvent des poèmes qui faisaient 15-20 pages d'affilée, donc qui étaient aussi extrêmement syncopés, mais qui, par l'endurance qu'ils prenaient à s'écrire et ensuite à se lire, faisaient qu'on rentrait dans quelque chose et qu'on pouvait suivre malgré le fait que ce dont il était question pouvait être parfois assez abstrait. Même si je parle de portraits de tête, de vertébrales et de son corps flottant, en fait, il forme une sorte de trilogie, son corps flottant, vertébral, portrait de tête. Sont trois livres où le corps se débat avec quelque chose qui est sa gravité, mais aussi se débat avec le fait qu'il est toujours entouré d'une foule qui vient le chercher pour lui dire « Mais viens avec nous, c'est avec nous qu'il faut que tu sois, cherche pas ton air de ton côté, viens avec nous, on va te le donner, etc. Bon. » Ces trois livres, un corps se débat face à ces gens qui veulent le séduire et l'emporter. Donc, le motif principal est ce corps, et on voit bien qu'il se débat entre... qu'il est déchiré entre plusieurs choses, comme ça. Et donc, En quelque sorte, dans cette trilogie-là, on n'avait pas à dire, par exemple. Alors que là, c'est vrai que dans... Il y a des motifs très concrets, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi très liées à quelque chose qui est un mouvement presque cinématographique ou à des blocs qui sont presque des aplats noirs comme des peintures abstraites ou des choses comme ça. Mais en même temps, le poème, chaque poème déplie ce qui se passe, hein, et ce qui est raconté au tout début. Ensommeillé, tu penses au coup de jaune moutarde, etc. Puis ça se déplie. Ça dit quelque chose d'autre. Donc, à un moment donné, il m'était nécessaire, mais à moi d'abord, effectivement. Ensuite, je pense que c'est bien quand on le lit, mais à moi d'abord de convoquer l'exemple, c'est-à-dire, par exemple, ce que tu dis, alors donne-moi un exemple. Ben, par exemple, je traverse un champ la nuit, et puis je me tords la cheville et je tombe. Voilà, par exemple, des choses comme ça. D'un seul coup, reconvoquer quelque chose qui est extrêmement littéral, très prosaïque, hein, et qui raccorde pourtant, pour moi, dans l'exemple, à ce qui peut être déplié et dit, du coup, de la mémoire. Vous vous souvenez peut-être, il y a un exemple fameux comme ça, dans la poésie moderne, c'est Henri Michaud. À un moment donné, il tombe et il se casse le bras. Et bon, il se retrouve avec son attel, là. Et puis,
livre qui s'appelle Bras cassés.
Voilà. Et donc, il en écrit un livre ensuite qui s'appelle Bras cassés. Parce qu'il se casse le bras, le bras droit, donc il ne peut plus écrire, donc il se retrouve avec la main gauche à essayer d'écrire, il n'arrive pas. Puis en même temps, il a dans son corps quelque chose qui ne va pas, qui le bloque, il n'arrive plus à faire les mêmes mouvements. Et de là, d'un truc très très simple, il va parler du déséquilibre qui va être porté jusqu'au centre même de son existence, quoi, et de son écriture.
Il parle de son bras gauche qu'il appelle l'inutile.
Ouais. Mmh.
Mais donc, ce par exemple, en écoutant ou en lisant vos poèmes, parce qu'évidemment, là, on est convoqué aux deux ce soir, il y a ce par exemple qui sont ces éléments de réalité, je dirais extrêmement, presque tutélaire, très fort, qui viennent s'inscrire dans le poème. Et en même temps, puisqu'on parlait de forme de narration, ou de manière de raconter une expérience ou un passage à travers les éléments, il y a quelque chose de l'ordre de la couture. C'est pas pour rien qu'on a le fil ou de ne pas perdre le fil. Mais très curieusement, c'est comme si on était un peu à équidistance de beaucoup de choses qui nous entourent. Enfin, comme si on voyait le poète entouré de certaines choses, qu'il y a une expérience, une manière de traverser la réalité, et qu'il y a une manière de couturer la réalité. C'est-à-dire d'aller chercher l'enfance là où il y a une sensation précise et de passer le fil, et ensuite d'aller voir qu'il y a une perception qui s'imprime sur la rétine comme sur une plaque photographique, et qu'à peine passé le fil, tiens, ça fait penser à quelque chose de l'ordre du grave, du noir, de quelque chose qu'on pourrait presque tracer, mais qui s'imprime au noir, dans le noir de la mémoire, mais dont on sent la sensation, et c'est encore moins visible. Puis hop, il y a ce champ jaune moutarde et tout. Et j'ai toujours eu l'impression qu'il y a des poètes qui s'envisagent comme des plaies vivantes, je ne vois pas trop comme ça, mais il y a une manière finalement aussi de parcourir l'espace comme si on le couturait, comme si on le cicatrisait à travers cette propre forme de narration qui va d'élément en élément. Est-ce que vous percevez votre poésie comme ça, parfois ?
Bah, qu'il y ait un fil, qui fasse ce lien, comme tu dis, entre des choses qui peuvent venir de l'enfance, qui vont là, qui recoupent quelque chose d'extrêmement immédiat, qui repartent sur quelque chose, etc., comme des sortes de ricochets. Oui, certainement. Après, qu'est-ce qui se couture là ? J'aurais presque envie de dire que, plutôt que ce qui se couture ou ce qui voudrait se couturer, j'aurais plutôt l'impression de... Enfin, je voudrais plutôt davantage dire qu'il y a quelque chose qui se désembobine. Voilà. Où il y a une bobine qui s'est désembobinée, qui est partie, vous savez, comme le dit l'autre, là, sous le lit. Hein, et puis on ne sait pas où elle est, alors on cherche, et puis on pleure, on ne sait pas où est cette bobine, parce qu'elle n'est plus là, alors elle est absente, elle est manquante. Et puis bon, finalement, on s'aperçoit qu'il y a une bobine au bout, donc il suffit de pas trop tirer le fil pour la faire revenir à soi. Et puis la rembobiner. Puis en même temps, la rembobiner, on n'a qu'une envie, c'est de la désembobiner. Donc je pense que c'est plutôt ça le travail. S'il y a un motif peut-être plus juste, c'est ce rapport un peu comme ça d'aller-retour entre la bobine qui se désembobine et qui se réembobine. C'est pas pour rien aussi peut-être que le mouvement presque cinématographique qui quand même sommeille un peu à l'intérieur de ces textes est très présent, parce que on peut aller en arrière, on peut faire comme on veut, on peut revenir en avant, on peut accélérer, on peut ralentir, on peut focaliser quelque chose et le faire durer sur 20 pages, et on peut le réduire à deux vers aussi. Donc après, c'est juste des tempi comme ça qui se forment à l'intérieur de l'écriture quand l'écriture se fait, quoi, et que...
Mais ce travail des bobinages, rembobinages dont vous parlez, il y a tout de même une chose qui est importante quand on vous lit. On l'a entendu là, mais le voir aussi est tout de même quelque chose d'important dans la lecture du poème, dans sa lecture mentale, qui est certainement la lecture habituelle d'un lecteur. C'est cette manière aussi de sabrer aussi dans le vers, sabrer, couper, on dirait de manière peut-être un peu moins lyrique. Mais il y a quelque chose de l'ordre du verbe et de la conjugaison qui s'absente aussi dans vos vers. C'est-à-dire, il y a toujours une coupe qui se fait au moment où la phrase pourrait tourner à l'affirmatif, à l'énoncé. Et ça, c'est tout de même une forme d'obsession dans vos poèmes.
Oui, c'est vrai.
Si vous n'étiez pas dans cette obsession, dans quoi vous auriez peur de tomber, monsieur Laugier?
Déjà, je trouve que j'ai fait un grand pas, parce que déjà dans l'œil bande, effectivement, il y avait des phrases qui ne se terminaient pas. On ne savait pas. Puis je suis dans la cuisine où. Puis l'autre page, c'était tu es dans la rue, nanana, nanana, je ne sais pas, un truc comme ça. Donc il y a toujours ça, évidemment. Mais je pense tout simplement parce que. Bon, c'est lié à tout ce que j'ai dit avant sur cette nécessité de respect aussi du truc que d'un seul coup il faut plus dire, parce que c'est déjà dit, soit c'est déjà contenu, soit j'ai pas envie d'en dire trop, quoi. J'ai pas envie d'en dire trop parce que ça sert à rien, c'est déjà là. Tout ce qui a été dit conduit à ça, et là, c'est pas la peine, il faut arrêter. Alors j'arrête là parce que je trouve que là, c'est bien d'arrêter sur ce mot, c'est bien d'arrêter sur cette bascule qui fait tomber vers on sait pas quoi, mais voilà. Je trouve
mais quand vous l'articulez, c'est extrêmement chorégraphique, en fait. C'est-à-dire, cette bascule, hop, on voit le geste. Un danseur peut nous faire comprendre ça. Le moment où il peut le montrer, où il tiendrait trop bien sur les jambes, où finalement il va tomber. Ça va, on a compris qu'il tomberait. Et ce qui nous intéresse, c'est de sentir ce déséquilibre.
Ouais. C'est comme... c'est...
Il y aurait des liens avec la danse, mais avec la musique, parfois... Sur certains articles, on cite le jazz à votre sujet, et c'est quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez. Un jazz qui supposerait évidemment derrière l'idée de musique improvisée, comme on dit un peu lentement aujourd'hui.
Oui, bon, on peut faire la référence. C'est vrai qu'il y a dans l'œil bande, il y avait quelque chose qui pouvait faire penser à ça, ne serait-ce que par la couverture du livre, par le motif qui était urbain, etc. C'est peut-être moins vrai dans la trilogie dont j'ai parlé, Son corps flottant, Vertébrale et Portrait de tête. Ou à la rigueur, s'il y avait une musique à mettre dans ce truc-là, c'était plutôt du, comme tu aimes bien, du Ligeti ou quelque chose comme ça. C'était beaucoup plus abstrait, c'était beaucoup plus haché, c'était beaucoup moins narratif, au sens où le jazz est aussi narratif de toute une mythologie liée à la ville, liée à l'urbanité, liée aussi au rapport de classe, etc. etc. Après, je dis pas que ça a pu jouer, peut-être, de façon... Mais là, je pense tout à fait inconsciente. Ça n'a jamais été prémédité ni voulu de ma part. Peut-être le seul moment où je me suis dit, si j'arrive à faire un truc avec la musique un jour dont je serais fier, c'était après avoir écouté une pièce pour percussion de Bartok.
Et,
je m'étais dit, si j'arrive à écrire ce qui est écrit là dans la musique de Bartok... Ça serait, j'aimerais bien mettre ça en mots, quoi. Mais ça a été le seul moment conscient où j'ai pensé à ce rapport à la musique. Sinon, effectivement, les gens l'ont dit, mais peuvent le dire. C'est tout à fait... on se réapproprie comme on veut ce qui est écrit. Quelqu'un pensera à tel morceau d'un tel, et un tel pourra prendre un exemple totalement hors de propos, en quelque sorte. Après, c'est une réappropriation que chacun se fait, quoi. Je pense que si je lis ce poème-là en français à un croate qui n'entend rien au français, il pensera à de la musique, mais autre, que nous ne connaissons même pas. Donc ça, c'est un autre problème. Mais c'est vrai que enfin, s'il y a une importance d'un média, entre guillemets, extérieur à l'écriture elle-même, et quant à la façon dont on reporte l'influence d'un média sur l'écriture, c'est toute une histoire, parce que elle n'est pas du tout de l'ordre du mimétisme. On ne cherche pas à faire du cinéma quand on écrit, on ne cherche pas à faire de la musique quand on écrit, sauf si on écrit de mauvais poèmes, on va essayer de faire du tapping, voilà, comme ça, mais c'est pas intéressant. C'est comment on se réapproprie un média qui existe pour en faire quelque chose, comment on filme à l'intérieur des mots dans un poème. Voilà, ça, c'est la question qui m'intéresse. C'est à la rigueur celle qui est la plus patente dans mon travail, dont je suis peut-être le plus conscient, parce que c'est peut-être l'univers qui m'a le plus marqué consciemment dans l'écriture. C'est comment je peux faire un cut comme Ozu ou machin, ou Cazavetes en fait un, ou comment, quand Cazavetes filme ça, je peux, moi, dans mon présent, me réapproprier cette façon qu'il a de filmer, mais l'inventer à l'intérieur du langage.
Et quand le propre du cinéma est de dire moteur et de sentir ce moteur à l'œuvre, en train d'œuvrer au sein du poème, il y a la coupe qui ne fait pas basculer, qui ne fait pas tourner à vide, mais fait tourner à blanc, qui ouvre un espace, qui est celui où finalement vous n'avez plus rien à dire pour l'heure de quelque chose, mais où en tout cas on aura pu sentir au plus près ce qui pouvait non seulement vous obséder, mais ce qui peut-être du coup maintenant nous obsède en tant que lecteur. Mais dans ces coupes, dans cette manière extrêmement fragile de se tenir au bord du vide, au bord du blanc, il y a la sensation aussi que cette langue qui peut sembler malmenée, mais qui finalement n'est qu'une une articulation intime qui est la vôtre, peut s'approcher aussi d'une certaine forme de bégaiement. C'est-à-dire que ce « je ne peux » qui ne suppose pas le « pas », ce « je ne », cette manière de commencer à dire et de voir que dans cette simple élocution brève qui commence à s'articuler, il y a quelque chose qui bloque, qui se redit. Est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment donné, ça joue aussi sur cette présence du bègue qu'on retrouve chez d'autres poètes avec lesquels vous sentez sûrement en amitié ou en affinité, et qu'il y a toujours quelque chose qui dit à peine et qui, à un moment donné, pourrait dire de manière bègue. Est-ce que vous ressentez ça aussi dans la manière un peu rythmée, que vous parliez de syncope?
Oui, c'est lié à tout ce que je disais tout à l'heure. Il y a, à un moment donné, le bégaiement, on va dire, pathologique. C'est une façon qu'on a de ne pas prononcer les mots. À un moment donné, comment, pourquoi la langue bégaye? Pourquoi la langue, alors que je ne bégaye pas, va bégayer à l'intérieur du poème? Qu'est-ce que je poursuis que je n'arrive pas à dire qui fait que je rends la langue bègue, en quelque sorte? C'est toujours lié à cette question de respect de ce qui est dehors.
Au moment où, par exemple, vous ne bégayez pas, je cite cet auteur, évidemment, chez Bernardo, il tient, mais Guyotat, lui, choisit d'inventer à partir de ce moment-là. Ça, vous ne le faites pas?
Non, je ne l'invente pas, sauf... Mais alors, par rapport au travail de Guyotat, c'est très, très minimal ce que je veux faire, sauf à infinitiser des mots qui devraient être conjugués à l'indicatif présent ou à tout indicatif qu'il soit. Je vais dire, au lieu de dire « je finis », je vais dire « je finir » ou des choses comme ça. Je vais enlever un article là où il en faut un, enfin, etc. Donc, il y a des... Plutôt, effectivement, plutôt que d'être comme Guyotat dans la prolifération, quelque sorte, comme une sorte de lave qui coule comme ça et qui invente son propre langage, je serais plutôt dans l'extraction, moi. Ou dans la torsion, mais la torsion qui soit arrête le mot et ne finit pas la phrase, ou effectivement choisit une tournure syntaxique fautive, hein, une licence comme on dit, qui fait rentrer l'indicatif, enfin fait rentrer l'infinitif là où il devrait y avoir l'indicatif, parce que j'ai envie d'avoir une rudesse qui est marquée dans l'infinitif, quoi, et le verbe étant en plus absolument pas conjugué, donc il n'y a plus de sujet, quoi, c'est le verbe en tant que bloc comme ça qui vient à l'intérieur de la phrase. Ainsi, poésie n'est pas quand poésie n'est pas, et n'est pas de le moment n'est pas le moment de le faire ferait de le faire faire n'est pas, mais de ne pas le faire à, aura peut-être aura pu dû le faire à ceux dans le moment, et même dans le recommencer, le comment, l'élancement, le lent, le très lent passage d'un homme dans la rue aura fait le moment, le faire faire dans ses pieds un ciseau, le comment, le tout quand il passe, passera, viendra, vient, ne cesse pas de le faire, de ne plus le faire, cesser de venir, oh oui, venir, faire le faire, venir, du ne plus céder, sûr que ne plus, alors vraiment ne pas céder sur sa lecture, ne pas, sinon, ne plus revenir au nom, jamais, car jamais ne navigue dans une jambe de bois, de cheval, de petit cheval en bois, clair, très. Ou même alors, même ou pas tout à fait, poésie de bras cassés. Ainsi de la persistance du ver battu, quand il clignote dans la lumière dure, il clignote à la tempe. Aussi, ainsi, tu te relèves avec le bras cassé du poème, et lui aussi est ainsi d'être, d'avoir pris la chute, le choc, ensemble en même, et simple là de temps, il est coque plâtré, presque, mais ouvre jusque dans la tête, ainsi même de la lumière, discret blanc d'œuf, passe, cligne avec et recommence tel que rien n'empêche de boiter. De poursuivre avec la luminosité très faible, avec le petit phare de devant, de faire un poème petit fin sermon, ouvert, général, dans le gravier peu contrasté, de faire une règle pas marchandable. Car bras cassé en vrai, devenir en tête, fait le poignet sec, l'habitude gauchère d'écrire à deux mains est sûre, n'est pas sûre, mais d'être ainsi entre en tête, tourne en elle, d'écrire la désécrit, dévide la pelote imaginable, réécrit l'imaginable, écrit l'un et l'autre, en même et nécessaire, sinon rien alors, rien vraiment ne s'écrit.
Voilà, c'était une rencontre avec Emmanuel Logier, animée par Marc Blanchet.
Je vous rappelle son dernier recueil de poésie, édité chez Virgile en 2006. Il s'intitule « Mémoire du mat ». Thank you.
Générique.
Fred Friis.
Musique.
Ulrich Krieger, Régis Boulard et Régis Ubi. À bout de souffle, vous quitte.
Internet. www.audioblog.arteradio.com/a-bout-souffle. À bout de souffle.